Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec notre égérie, notre maître Yodu, notre athlète de haut niveau, Johan Durand. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Toujours au Kenya, toujours en forme. On espère que tout se passe bien pour toujours. Toi, mon petit pote. Ça va, tout va bien?
Tout roule. Ouais, ça va, à part un petit peu de pluie là depuis quelques jours. Du coup, c'est peut-être pour me réacclimater à la France, tu vois. Le Kenya se dit, allez. On va pas trop le perturber, on met un peu de pluie, un peu de froid.
Johan, on est excité, l'opération record du monde est lancée. Venez écrire l'histoire avec nous le week-end du 8 juin au stade Charletti. On vous rappelle le défi d'envergure pour les 144 coureurs qui seront concernés. Parcourir 350 km en 24 heures sur la magnifique piste du stade parisien. Vous avez toutes les infos sur rmc.fr. Et dans le club RMC Running sur Strava. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vous écoutez le podcast spécial record qui a été publié lundi. On a une belle thématique aujourd'hui dans RMC Running. Comment permettre aux femmes de courir en sécurité? Comment lutter contre le harcèlement de rue? Pour en parler avec nous, on va recevoir Mathilde Castres, qui est présidente et fondatrice de l'association Sine Qua Non, asso qui lutte contre les agressions sexuelles et sexistes. La séance du jour sera adaptée à son profil. Comment éviter de commettre des erreurs lorsqu'on débute la course à pied du jour au lendemain? Elle s'est mise comme ça sur un coup de tête à courir. Tu pourras nous donner tous tes conseils. Et un magnifique bon plan d'ossard. Ah bah c'est l'une des courses de ce début d'année, Yodu. Le semi-marathon de Paris. 4 dossards à gagner pour ce semi qui est magnifique. L'une des plus belles courses de France. 40 000 participants. Donc là aussi, vous aurez l'occasion de tenter votre chance. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On part courir en toute sécurité.
Je vais surtout vous raconter l'histoire d'une femme formidable.
Bonjour, je suis Mathilde Castres, présidente de l'association Tu Vis, Tu Dis. Depuis de nombreuses années, j'ai appris à vivre avec la peur.
Elle s'est mise à courir pour se défouler, pour se challenger, pour décharger sa colère.
Et ça m'est arrivé une fois au parc Montsouris d'avoir un mec qui a décidé de courir avec moi et de me coacher. Et en fait, il me collait. Après, il a fini par partir.
Ça m'arrive de me faire siffler.
Ça me gâche vraiment tout mon plaisir parce que du coup, ça me perturbe dans ma course, quoi.
On a tous le droit d'être dans la rue au même titre que les hommes.
La peur de rentrer seule le soir et de me sentir suivie et de pas oser prendre mes baskets.
On court pour montrer justement qu'on doit pouvoir courir où l'on veut, quand on veut et comme on veut.
Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'elle a vraiment envie de faire du bruit et de faire bouger les choses.
Et oui, elle est là, elle veut faire changer les choses. Et on est ravis de l'accueillir, Mathilde Castres, la présidente et fondatrice de l'asso Sine Qua Non. Salut Mathilde.
Bonjour, merci.
Bah non, de rien, avec plaisir. T'es pas castrez, hein, rien à voir avec ton nom de famille.
Ah non, non,
rien
non.
Du tout. Non. Bon, ça marche. C'est une thématique qu'on voulait traiter depuis longtemps. Forcément, ça nous tient à cœur. On adore le running. On consacre quasiment la moitié de nos épisodes à des invités féminins. Voilà, beaucoup de femmes viennent participer à ce podcast. Et on avait envie comme ça de mettre en avant cette problématique, Mathilde, parce que c'est un combat qui est loin d'être gagné. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer tout ça. Hein.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que l'on voit, c'est quand même le point maintenant est mis en avant grâce justement aux médias et des émissions qui sont de plus en plus nombreuses, en tout cas, à soulever ce sujet. Alors que c'est vrai, il y a 5 ans, personne n'en parlait. Donc on espère, en tout cas, pouvoir faire avancer les choses.
Yodu, c'est une thématique qui te tient à cœur toi aussi. Tu es un passionné de course à pied. Tu es à la fois athlète de haut niveau, aussi encadrant parce que tu commences à coacher des athlètes. On est obligé de parler de ce sujet, quoi. C'est quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas du tout négliger ou mettre de côté. Hein.
Bah, c'est quelque chose d'important et c'est vrai que c'est un sujet de société qu'on retranscrit, nous, à travers le running. Mais tu vois, moi, je suis sur un projet, j'ai lancé une application de running qui s'appelle Runners et l'application, elle est simple, elle te propose des parcours géolocalisés en fonction de là où tu es et du nombre de kilomètres que tu rentres. Et une des problématiques qu'on s'est dit, c'est on va mettre un point SOS, c'est-à-dire que sur notre application, parcourir et tu peux mettre, si t'arrives un problème, tu vois, tu rentres sur ton téléphone que t'as un problème et ça envoie un SMS à la personne de ton choix que t'as rentré dans l'application pour dire que t'es à tel endroit et que t'as rencontré un problème. Alors ça peut être une blessure, mais ça peut être aussi une mauvaise rencontre.
Ah, c'est bien.
Et c'est vrai que, tu vois, quand on a lancé l'application, on s'est dit, voilà, comment permettre à tout le monde de pouvoir aller courir et en toute sécurité. Alors, il y a le volet sécuritaire lié à une blessure si tu parcourais en montagne, mais il y a aussi le volet sécuritaire pour les femmes. Et l'idée de notre application, c'est aussi de permettre à ces femmes-là de se lancer dans la course à pied. Si elles veulent y aller seules, elles partent avec son téléphone. Dès qu'elle rencontre une... Enfin, si ça arrive... Elle sait que quelque part elle a cette solution là et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et c'est une vraie problématique de société et de course à pied. Ouais.
On va prendre le temps d'expliquer toutes les actions mises en place par Mathilde et par son association. Juste une stat que j'ai retenue d'après nos copains de Strava d'ailleurs. Oui. Chez les femmes, on constate 45% de baisse de pratique sportive par rapport aux hommes dès que la nuit tombe. C'est quand même une stat folle qui résume très bien cette problématique, Mathilde, en fait.
Oui, et nous, c'est un peu aussi comme ça qu'on a monté toutes nos actions. Puisque c'est une réalité, à la nuit tombée, on se sent plus en sécurité et ça va être une entrave à notre pratique. Ce qui est fou de se dire que parce qu'on est une femme, on va s'empêcher de faire quelque chose qui nous fait du bien.
Mathilde, on démarre toujours nos podcasts par cette question. On va faire le déroulé normal, on fera ton CV de coureur. Mais pourquoi tu cours alors, Mathilde Castres? Parce que c'est, là aussi, c'est symbolique pour toi.
Oui, mon rapport à la course est vraiment particulier, j'ai envie de dire lié à mon histoire personnelle. Alors moi, depuis petite, je n'étais pas sportive. La course, c'était ce qui me faisait le plus... de difficultés et je m'y suis mise il y a 8 ans où pour moi du coup courir a vraiment été un acte de survie tout simplement pour expulser ma colère parce que j'ai été victime d'agressions sexuelles dans l'univers professionnel et pour la première fois j'ai été confrontée à ce sentiment que je ne connaissais pas et qui était vraiment en train de me dévorer. Et là, le seul moyen que j'ai trouvé vraiment pour me réparer, c'était de chausser des baskets. Et j'habitais à Montréal et c'était en plein hiver. donc, j'ai commencé à courir avec des moins 10 et sous la neige. Et puis là, ça m'a vraiment transformée. Ça m'a donné une énergie que je ne soupçonnais pas. Et ça a été vraiment un véritable moteur de confiance pour moi, pour me battre. J'ai porté plainte, du coup, ça, voilà, j'ai pu traverser tous ces longs mois d'une procédure judiciaire. Et puis, plus je courais, plus la course aussi est devenue, s'est transformée de quelque chose un peu réparateur pour gérer ces sentiments assez difficiles. J'en ai fait quelque chose de positif, puisqu'au même moment, je m'apercevais que c'était juste avant MeToo. Que la problématique, en tout cas, d'agression sexuelle et sexiste était un peu, j'ai envie de dire malheureusement, universelle et qu'on avait été tous confrontés de près ou de loin à cette situation et que malheureusement, on en avait fait une règle et on vivait avec.
Et on aura le temps de le raconter, mais ça, je trouve ça passionnant ce que tu viens de dire, c'est les différents paliers que tu as traversés grâce à la course à pied. D'abord l'exutoire, ensuite la prise de confiance, et puis pour aller ensuite mener ton projet jusqu'à aujourd'hui. Donc, Johan, c'est ce qui est génial dans l'histoire de Mathilde, c'est que c'est palier par palier, elle a réussi à passer au-delà de ce qui lui était arrivé, à surmonter cette épreuve, et ensuite en faire une force. Et la course à pied a été un vrai moteur, Johan, c'est génial, c'est fantastique comme témoignage.
C'est la course à pied ou le sport en général, tu le vois sur des gens qui vont faire des sports un peu de combat aussi des fois, pour se défouler, pour quand ils ont des périodes un peu difficiles à traverser. Et c'est vrai que le sport en général, c'est quand même un outil où après tu te sens mieux, tu le vois après ton run, hein, quand tu as fini de courir, t'as créé des endorphines, tu te sens mieux, tu te sens bien, t'as évacué un petit peu, t'as évacué de la transpiration, mais t'as aussi évacué des choses d'un point de vue mental. Et c'est vrai que et après ça te construit et petit à petit tu prends conscience et puis de la pratique, comme elle l'a dit, hein, où t'y allais au début pour te défouler, ça devient presque une dépendance. Hein. On parle souvent de dépendance à la course à pied, mais c'est exactement ça. Et là après c'est d'autres objectifs qui rentrent en ligne de compte, mais enfin ça, on parle de la course à pied, mais je pense qu'on peut le mettre dans tous les sports, parce que tu le vois sur pas mal sur les sports de combat, quand tu discutes avec des mecs qui font de la boxe ou des choses comme ça, c'est souvent des jeunes qui ont eu des moments difficiles et qui des fois s'en sortent grâce au sport. Ça les recadre aussi, tu vois, ça te pose un cadre, ça t'oblige à avoir des horaires, à avoir une responsabilité, enfin des tout ce qui va avec le sport. Et c'est vrai que c'est pour le coup c'est quand même une pratique qui permet de se sentir mieux, ouais.
Bon, on détaille tout ça dans un instant, juste après le CV de coureur de Mathilde.
RMC,
le CV de coureur.
Tu as quel âge aujourd'hui, Mathilde?
43 ans.
Et tu cours depuis quand alors? Depuis quelle année?
Ben, depuis 2016.
Depuis 2016. Tu cours combien de fois par semaine?
Maintenant, je cours 4 à 5 fois par semaine.
Ah oui, ça représente combien de kilomètres en moyenne?
Écoute, je dois être à 30 à 40 km quand je prépare pas de course.
Ok. Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fière?
Bah, mon plus beau, ma plus belle victoire, c'est d'avoir couru le marathon de Paris il y a 2 ans.
Ouais.
Sachant qu'il y a 6 ans, je courais à peine 4 km. Donc oui, c'était mon défi le plus important et... où j'ai ressenti des choses insoupçonnées et une émotion extrême.
Ah, ce passage sur la ligne d'arrivée, tu t'en souviendras toute ta vie.
Ah oui, oui, énorme.
Quelle est la dernière course que tu as disputée?
C'était le marathon l'année dernière, mais j'ai pas réussi à franchir la ligne d'arrivée parce que je me suis blessée.
Aïe.
Ah mince, ouais. Pendant la course?
Bah un peu avant, je me suis mal préparée justement.
Bon, d'accord.
Quelle sera la prochaine course?
Le semi de Paris.
Ah, magnifique. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Parlons d'entraînement rapidement. Est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée, Mathilde?
Le long. Le long.
Et détester
l'endurance.
Sans hésitation. Et du coup, une séance que tu détestes?
Le cours, le sprint.
Bon, Mathilde Castres est donc en direct avec nous cette semaine. C'est un sujet important dont on veut se saisir dans RMC Running. On a parlé donc de ta relation avec le sport. Je résume juste en quelques mots parce que tu le disais, toi, en 2015, tu es parti t'installer au Canada. Tu es parti travailler dans une galerie d'art. Le patron, dès le premier jour, a un geste déplacé, ce qui te surprend. Ensuite, tu commences à en parler avec tes différents collègues et tu te rends compte que ce personnage est coutumier du fait. C'est un spécialiste du harcèlement sexuel. Tu te sens le seul, loin de chez toi, et c'est là que toute cette histoire démarre, en fait, Mathilde.
Oui, oui, exactement. Et c'est vrai que le fait d'être loin, c'est encore plus difficile puisqu'on n'a aucun repère. Et là, ce qui m'a un peu frappée, c'est que c'était su de toute la place publique et notamment du milieu de l'art. Et que ça faisait 20 ans que cet homme agissait de la sorte et qu'on ne faisait rien. Donc c'est comme ça que moi j'ai décidé de porter plainte pour stopper ce qui me paraissait juste injuste et inadmissible. Et là, je me suis aperçue que quand même, autour de moi, il y avait beaucoup de gens pour qui cette situation était inacceptable et qu'on était quand même assez nombreux et nombreuses à vouloir dire stop et à vouloir montrer que la société ne devait pas fonctionner comme ça. Voilà.
Mathilde, c'est impossible pour nous, pour Johan et moi, de nous mettre à ta place, de ce qu'on ressent dans ces moments-là, parce que bon, je pense pas que Johan s'est arrivé une chose pareille, moi non plus. Qu'est-ce qu'on ressent? Quels sont les premiers sentiments ressentis? C'est quoi? On est perplexe, on ressent un peu de gêne, de la honte. Comment on se sent en fait quand ça arrive? Parce que c'est dur de se mettre à ta place. Hein.
Ouais, déjà de la sidération.
Ouais, t'es sidéré. Ouais.
On est sidéré, on ne sait pas comment agir. La culpabilité, et ça, c'est vraiment un sentiment qui est assez difficile, puisqu'on se remet en cause, on se dit qu'est-ce que j'ai pu faire?
Est-ce que j'ai une responsabilité là-dedans, quoi?
Forcément.
Ouais. Ouais.
Et après, quand on se lance dans cette procédure judiciaire, forcément, ces questions reviennent et on doit se justifier. Donc, c'est aussi comment on gère cette. Cette culpabilité qui est là, quoi.
Et c'est quelque chose qui te hante, parce que nous, on avait reçu Charlène au moment où on faisait des épisodes spéciaux, tiens, sur l'UTMB, tu te rappelles, Yodu? Elle avait été victime d'une agression, c'était une personne qui travaillait d'ailleurs au tribunal de Paris, et elle s'est servie du trail comme ça, un peu comme Mathilde, pour s'échapper de tout ça, pour se reconstruire, parce que c'est vraiment une reconstruction là dont on parle. Oui, c'est ça, Mathilde. En fait, c'est tout de suite, tu te sens perdu, tu commences ton chemin et rapidement, la course à pied te paraît être une évidence.
Oui, parce que je me suis aperçue que la douleur, elle était aussi physique et que du coup, pour moi, la réparation, elle devait aussi passer par un acte physique pour me sentir vivante et reprendre prise aussi sur ce corps qui avait été abîmé. Et la course m'y a aidée. J'ai appris aussi à redécouvrir mon corps, à en prendre soin, à le respecter. Et c'est vrai que c'est plein d'apprentissages comme ça que l'on fait à travers la course, le fait de s'entraîner, de devoir en prendre soin. Et c'est comme ça que j'ai pu me réparer, en tout cas.
Tu décides de rester tout de même 3 années au Canada. Tu reviens en 2018. Et là aussi, c'est assez révélateur parce que ton premier réflexe, c'est de retrouver un univers professionnel que tu connaissais comme si tu voulais retrouver une forme de cocon et te rassurer, entre guillemets.
Oui, j'avais vraiment besoin de ça parce que c'est vrai que j'avais perdu un peu aussi... mes repères, confiance et le fait de retrouver en tout cas cet univers où je me sentais en sécurité, ça m'a aidée. Parce que c'est vrai que la première fois de reprendre cet univers professionnel, c'est difficile.
Ouais. Comment te vient l'idée de l'association ? Au départ, c'est l'asso Tu vis, tu dis, je crois. D'ailleurs, ce n'était pas tout de suite sine qua non. C'est-à-dire que là, ça fait partie aussi du processus. Il y a la reconstruction personnelle, mais il y a l'envie de combattre aussi et de lutter pour les autres femmes victimes d'agressions ou de violences et d'harcèlement. Ça fait partie de la fin du processus, ça. C'est de se dire, je vais aussi monter au front pour celles qui peuvent en être victimes.
Ça a été une étape où... justement, quand j'ai commencé un peu à courir au Canada, j'ai fait aussi... J'ai eu un peu ce virus-là au fur et à mesure où j'ai voulu me challenger. Puis j'ai commencé à faire quelques courses caritatives où là, j'ai été assez surprise de cet élan quand on court pour une cause qui est vraiment un élan très positif. Et puis tout au long de ma procédure, donc, qui a été assez longue, à un moment donné, je me suis rendu compte que cette histoire, je devais vivre avec, je devais apprendre à vivre avec. Oui, j'ai été victime, ce qui m'arrivait, je ne pourrais pas l'enlever. Par contre, je pouvais en faire quelque chose de positif. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la course, de me dire, on est nombreux à vouloir dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Il y a vraiment ce besoin, donc c'était avant MeToo, de mettre en avant ce sujet-là. Et du coup, la course, je me suis dit que c'était un bon moyen de fédérer, mobiliser, sensibiliser l'ensemble de la société civile en donnant une énergie un peu positive sur une thématique qui n'est pas évidente. Ouais. Et puis de se dire, on va partager un peu nos foulées. Et puis symboliquement, je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'on prend un départ. Et puis, on va partager ces 6 ou 10 kilomètres vers une ligne d'arrivée qui est un peu cette société plus égalitaire qu'on souhaite, en tout cas, construire. C'est comme ça que l'asso est né, ouais.
Alors, tu le sais, on est avec Johan Durand, donc, qui est un marathonien membre de l'équipe de France, qui est une personnalité de la course à pied. Johan, tu es très, très souvent sollicité pour participer à des courses, à des événements. Est-ce que, souvent tu te renseignes sur la cause, tu vas avant tout vers des causes qui te tiennent à cœur ? Je sais pas, est-ce que tu as des combats que tu mènes toi aussi et pour lesquels tu t'engages du coup ?
Bien évidemment, ouais. C'est vrai que en tant que sportif de haut niveau, on a une espèce de, pas une aura, mais notre parole, elle peut compter parce qu'on est suivi un peu sur les réseaux, parce qu'on est membre de l'équipe de France, parce que voilà, tu prépares les Jeux Olympiques ou des choses comme ça, donc tu as une certaine légitimité dans le milieu de la course à pied. Et c'est vrai que, bien évidemment, quand des associations viennent me voir, j'essaye souvent de donner un minimum et de faire en sorte que de sensibiliser les gens, de toujours dire oui. Après, des fois, c'est plus ou moins possible. Mais c'est vrai que c'est important que ces courses, elles existent. Et j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus, toutes ces courses solidaires, où vraiment derrière, il y a une cause. Et c'est encore plus intéressant. Et pour moi, c'est vraiment à permettre que la course à pied, il y a le côté performance où, par exemple, on veut aller faire un semi, on veut faire un chrono pour soi, pour battre son record, mais on peut aussi courir pour une cause, et ça, c'est tout aussi louable, et la mettre en avant, c'est... quelque part, c'est se servir de la course à pied pour en parler. Et oui, c'est important de le faire. Ouais. Moi, je le fais assez régulièrement.
Mathilde, il doit y avoir quand même un moment douloureux parce que donc, tu lances ce cheminement, tu crées l'association. Donc, ça veut dire que tu recueilles un certain nombre de témoignages. C'est dur à vivre moralement, ça aussi, le témoignage de toutes ces femmes comme ça qui viennent se confier, qui ont vécu sensiblement la même chose que toi, qui sont peut-être encore plus touchées que toi. Ça c'est dur à vivre aussi ?
Bah, je pensais pas en tout cas qu'on était aussi nombreuses effectivement à avoir été confrontées à cette situation. Après, ça a changé l'orientation aussi de l'association, parce que c'est vrai qu'une fois que j'ai fait la première édition, dès le lendemain, on a reçu beaucoup de témoignages de filles, notamment, et ça c'était un sujet que j'avais pas vraiment vu moi perçu, ouais. Qui était aussi important, qui nous disait, mais parce que le parcours, donc on le fait à la tombée de la nuit, enfin dès le début on a voulu jouer un peu sur
c'est
symbolique.
C'est symbolique, bien sûr.
C'est ça. Ouais. Et on a choisi un parcours où on part sur cette place de Stalingrad, donc dans le 19e, et on longe le canal de Pantin, vers Pantin. Et c'est vrai qu'à la nuit tombée, il y a peu de monde de femmes en tout cas, qui vont sur ce chemin-là, qui est hyper agréable parce qu'il est sans voiture. Et là, on a reçu beaucoup de témoignages de femmes qui nous ont dit leur plaisir, en tout cas, ouais, de pouvoir courir à la nuit tombée sur cet espace où elles n'osaient plus y aller. Voilà. Et là, c'est vrai que moi, il y a un témoignage qui m'a marqué, qui a aussi réorienté, enfin, continué d'orienter la cause de l'association. C'est une fille qui nous a dit, moi, j'ai arrêté de courir. Et là, je me suis dit, waouh, pour qu'on arrête de courir parce qu'on se sent en insécurité, parce qu'on est une femme, c'est pas normal. Et du coup, cette course qui a lieu une fois par an, il fallait qu'on poursuive des actions tout au long de l'année pour accompagner justement ces femmes.
Il y a des échelles de gravité dans les agressions et le harcèlement, forcément, ça peut aller très loin malheureusement. On rappelle que Charlène, par exemple, nous l'avait confié, mais elle avait été victime d'un viol, carrément, donc c'était difficile de beaucoup, très très dur de se reconstruire. Ça part aussi de la simple remarque, et ça aussi c'est insupportable pour une femme. Moi, en préparant le podcast, j'ai vu un témoignage d'une des membres de votre asso qui disait « C'est fou, en courant quand on est une femme dans un parc ou ailleurs, on peut passer en 30 secondes d'un courage bravo à salope, tout ça, ce genre d'insultes qui tombent gratuitement. Et ça paraît rien, ça peut faire sourire certains, mais ça reste traumatisant lorsqu'on est en train de pratiquer sa passion et qu'on ne demande rien à personne, en fait, Mathilde. Il ne faut surtout pas minimiser ce genre de choses, en fait.
Non, il ne faut pas minimiser parce que ça a un impact. C'est assez intéressant quand on fait le début de nos sessions, on demande souvent aux hommes et aux femmes quelles sont les premières intentions, enfin les premiers gestes avant de courir. Et c'est vrai que les hommes se disent juste quel circuit je vais faire, quelle perf je vais faire. Ouais. Et la femme, avant de chausser sa basket, va se mettre mais plein d'entraves, dans quelle tenue je vais partir, est-ce que je préviens bien mon mec que je vais aller sur tel circuit, et qui sont autant d'injonctions qui t'empêchent en tout cas de pratiquer de manière posée ta course, et tu t'appréhendes pas ton run de la même façon.
Ah oui, t'as pas l'esprit libéré comme peut l'avoir un garçon. Hein.
Non, mais ça, juste pour dire que quand j'ai commencé l'athlétisme, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans, un jour avec un groupe de potes, on courait, c'était l'hiver, et l'hiver, on courait en fuseau, tu vois, les collants, les collants classiques, et on tombe sur un groupe de 4-5 jeunes qui étaient en train de fumer ou je sais pas trop ce qui branlait, et les mecs nous ont dit « Ah, vous êtes belle en collant !» Et je te jure que ça m'a...
Ça
m'a marqué, tu vois. Ouais, ça m'a touché. Ouais. En tant que mec, dans ma fierté, de me traiter comme ça, tu vois, je ressens ce que les femmes ont pu ressentir quand on les traite dans un parc, pareil, par des gens qu'elles connaissent pas. Et c'est vrai que je me reconnais là derrière, ouais.
Mais c'est fou, le choix de la tenue vestimentaire. Vous en avez fait aussi un combat, notamment ces courses en brassière, parce que l'été, lorsqu'il fait chaud, énormément de femmes s'empêchent de courir en tenue assez légère, justement pour éviter ce type de remarques et ce type de problème, en fait, Mathilde.
Oui, que ce soit même de mettre des leggings, la brassière, sur certaines zones, c'est vraiment flagrant. Et c'est vrai que c'est loin d'être anecdotique. C'est toutes ces injonctions qui font qu'on ne se sent pas non plus à l'aise et qu'on se met plein de barrières. Alors que quand on est un homme, bah, on le sait, hein, le fait de pouvoir, quand il fait chaud, courir dans des tenues plus légères, ça joue aussi sur la qualité de ton run.
Mathilde, donc on le disait, forcément vous multipliez les actions comme ceci, les témoignages se multiplient. L'image qu'on a quand on aborde ce dossier-là, c'est qu'on se dit souvent, celle qui est agressée, c'est la joggeuse en zone rurale. Il y a eu beaucoup de faits divers. C'est pour ça qu'il y a des moments de choses qui sont mis en place, comme l'appli dont nous parlait Yodu, là, son appli Runners, où là on peut déclencher un signal de détresse, un SOS. Est-ce qu'on a plus de risques de se faire agresser en ville qu'en zone rurale ? Est-ce que vous avez des statistiques sur ce genre de choses ? Est-ce qu'on lutte différemment en fonction de l'endroit où on habite ? Parce que c'est vrai que ce sont des problématiques complètement différentes.
Oui, alors on a effectivement, maintenant on s'est déployé à la fois sur Paris, l'Île-de-France, donc plutôt dans des zones urbaines, mais aussi de plus en plus dans des villes en région. Et ce qu'on s'est aperçu, donc là c'est vraiment de manière empirique hein, sur notre communauté, c'est que quel que soit l'endroit, on est soumis à la même problématique. Et c'est pas vraiment les lieux qu'il faut stigmatiser, mais davantage les comportements. Donc c'est comment justement on change ces mentalités, comment même là, on le voit dans ces joggeuses, ou même moi, hein, petite, c'est vrai qu'on te dit qu'il faut pas être seule le soir, et on t'inculque déjà
ces injonctions. Quoi. Au-delà voilà. Même du sport, bien sûr.
Ouais. Et du coup, on focalise sur la mauvaise problématique. Il faut mieux plutôt assurer un cadre safe, alors que déjà d'avoir ce discours culpabilisant à se dire tu peux pas le soir seul, enfin justement être seul. Et c'est l'inverse. C'est comment ensemble on arrive à faire une société où on instaure ce cadre bienveillant.
Juste pour donner un petit exemple, chez nous à Bergerac, pour des problèmes écologiques et un peu idéologiques, les pouvoirs publics, la mairie, a décidé de baisser l'intensité des lumières à 19h. Bah, en fait, c'est comme si tu courais dans le noir. La problématique, elle est là. C'est que pour des raisons écologiques, on baisse la luminosité, mais tu cours à 19h dans Bergerac, c'est comme si tu courais en pleine nuit. Il y a une ampoule sur deux qui ne fonctionne plus. L'intensité est très basse. Et bah, du coup, ça n'encourage pas les femmes à aller courir d'un point de vue sécuritaire.
Et c'est tout l'intérêt des sorties organisées par Sine Qua Non, parce que vous profitez aussi de vos différents footings mis en place pour signaler aux municipalités, aux personnes qui s'occupent de tout cela, que eh bien, cet éclairage est manquant, qu'à cet endroit-là, il fait trop sombre, etc. Il y a du concret aussi dans vos sorties, Mathilde. Ça, c'est bien.
Oui, l'idée, c'était vraiment justement d'accompagner. Toutes ces sessions sont nées de dire qu'il faut accompagner les femmes pour faire en sorte qu'elles rechaussent leurs baskets, parce qu'on le sait, seul, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, c'est comment on crée un peu, j'ai envie de dire, une spirale virtueuse avec le sport pour faire en sorte que plus de femmes se remettent à la pratique en groupe et puis prennent cet espace dans l'espace public, osent occuper cet espace public. Et puis, comme vous le disiez, on note et on fait ces retours aux collectivités de tous ces freins qu'on peut voir. Donc, il y a l'éclairage. Il y a l'éclairage aussi dans les parcs. Hein, je prends un parc à Paris, au Buttes-Chaumont. Et bien, c'est vrai qu'à 19h, même 18h l'hiver, l'éclairage n'est plus là. Et du coup, on ne voit que des hommes aller dans les parcs. Ouais. Donc, c'est comment on arrive à faire ces safe zones ensemble. Quoi.
Tu sais, je te donne un exemple concret qui m'est arrivé il y a une dizaine de jours. Moi, j'ai la chance de vivre dans l'ouest parisien, donc non loin du lac du Bois de Boulogne, des deux lacs du Bois de Boulogne, qui est un spot très prisé pour les runners. Hein. Il y a beaucoup de monde tous les jours, même lors des week-ends. Et ma compagne, malheureusement, ne peut pas y aller dès que la nuit tombe, parce que là, on est vraiment privé. Il y a un défaut d'éclairage. Tout est sombre. Il n'y a vraiment aucune lumière. Ce qui signifie que si elle veut courir en ce moment, le matin ou le soir, bah, je suis obligé de l'accompagner, sinon c'est impossible pour elle, tu vois. Exemple concret. Alors qu'on est sur un spot, comme tu dis, Johan, tu le sais, parce qu'on est déjà allé courir ensemble là-bas.
Oui, c'est ça.
On a déjà pratiqué. On est sur un des spots parisiens les plus
sympas à faire.
Puis les plus prisés, quoi. C'est ça. Tout le monde va courir à cet endroit-là, quoi. Ça paraît fou, mais c'est comme ça.
Mais moi, je le vois, j'habite pareil dans des rues piétonnes. Maintenant, à 22h, il fait nuit noire. L'éclairage est totalement coupé. Alors après, ça s'entend d'un point de vue écologique. Il faut faire des économies d'électricité, toutes les choses comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de mieux faire les choses pour c'est pareil, pour aller courir le soir ou pour rentrer chez soi, dans, sécuritairement parlant, être tranquille, quoi.
Mathilde, tu as été lauréate du fonds de dotation Paris 2024. Ça veut dire que ton combat a une portée. Est-ce que immédiatement, lorsque tu as lancé l'assaut, tu as reçu un soutien politique, que ce soit des mairies, même pour aller plus loin du ministère? Est-ce que tout de suite, on a écouté ta parole et on a mis en place des actions? Est-ce que tu as été soutenue dans tout ça?
Oui, et c'est ce qui m'a un peu donné un élan et qui fait que depuis 6 ans, on a quand même beaucoup évolué et grandi. Dès que j'ai créé l'association, c'est vrai que MeToo est arrivé, donc je pense qu'il y a eu aussi une écoute plus importante sur le sujet. Et j'ai eu directement l'appui de la ville de Paris, qui a fait qu'on a créé la Sine Qua Non Run et le ministère des Sports. Et quand on a commencé à travailler sur ce sujet qui a jamais été, en tout cas, cartographié, de la réappropriation de l'espace public, de l'utilisation de l'équipement sportif, en tout cas par les femmes.
Oui, on en parlait.
En proposant des dispositifs vraiment de terrain et concrets, on a eu l'appui du fonds de dotation, effectivement, de Paris 2024 et de nombreuses collectivités pour qui ça répond à un véritable besoin. Et aujourd'hui, on est même dans une situation où on n'arrive pas à répondre à toutes les sollicitations qu'on reçoit.
Tant mieux.
Oui. mais c'est comment, on y arrive et c'est un peu l'enjeu.
Il faut se structurer, c'est ça le truc. Il faut grandir aussi vite que l'impact médiatique.
Oui.
Non, mais c'est important d'avoir cet appui-là. C'est important de dire aussi quand les choses vont bien et quand une cause est prise en compte et qu'elle est vraiment travaillée par les pouvoirs publics. On le disait, le running est un sport particulier, mais c'est ce qui est génial avec votre action, c'est que vous ne vous arrêtez pas là. On parlait d'équipements urbains, c'est vrai qu'il y a des équipements sportifs gratuits dans les grandes villes comme Paris, il y a pas mal d'équipements de musculation par exemple en libre-service, il y a des city-stades un peu partout dans la ville. Et comme tu le disais, vous avez fait un constat, en gros c'est 90 à 95% de l'occupation qui est réalisée par des hommes en fait. Les femmes ont très peu d'accès à ce type d'équipement parce que évidemment c'est le genre de choses où tout le monde va à la même heure, c'est après le travail ou c'est entre midi et deux. Et c'est rare de voir des femmes en train de disputer un match de foot à 5 contre 5 sur un city stade, quoi. C'est ça le truc.
Oui, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on veut en tout cas créer davantage d'égalité, ça passe par la rue. Et la question de l'équipement sportif est centrale. Et que malheureusement, encore aujourd'hui, tous ces équipements sportifs urbains, donc accessibles à tous, sont préemptés par les hommes. Et quand on est une femme, il y a deux freins. Un, le fait qu'on n'ose pas y aller parce qu'on ne se sent pas légitime. Et deux, on n'a pas confiance en nous et en notre pratique. Donc, comme on a pu le faire avec le running, on a lancé des dispositifs pour vraiment accompagner les femmes sur ces espaces. Donc, avec les collectivités, on négocie des créneaux dédiés parce que ça passe en tout cas par là, c'est une étape. Et on a lancé des sine qua non un peu dans toutes les sports, ou en tout cas les équipements sportifs où il y avait le plus besoin de travailler. Donc, les city stades, on a lancé le sine qua non FC. Donc là, chaque semaine, on a toutes des coachs qu'on a formés aussi à ces sujets d'empowerment des femmes à travers le sport. Et on a 2 heures dédiées où on fait venir des jeunes, donc là on est plutôt sur des ados, sur ces cities où jamais on leur laisse l'espace. Et pendant 1h30, elles apprennent à aller sur ce terrain, à prendre confiance en elles, à découvrir la pratique. Et la dernière demi-heure, ce qui est assez fort dans le dispositif, on leur demande si elles veulent jouer avec les garçons. Et là, c'est là où on fait tout ce travail de sensibilisation pour montrer aussi aux garçons qu'on peut jouer avec une fille et qu'on peut partager l'espace.
Passer un bon moment, quoi.
C'est ça. Et vraiment être sur ce partage de l'espace.
Mais là, j'allais parler d'un point de vue personnel pour toi. C'est que c'est fantastique de se lancer dans le milieu associatif. Le moment de plaisir ultime, c'est de voir que les actions amènent des résultats. Et quand tu vois ce genre de séance qui est mis en place ou la réussite de tes courses que là aussi tu montes, qui sont d'ailleurs ouvertes aux femmes et aux hommes, tu ne limites pas tes courses aux femmes, c'est important de le signaler, mais quand tu vois l'engouement que ça suscite, ça doit être une fierté personnelle, Mathilde, quand on a raconté ton histoire, d'où tu viens et comment tout ça a été déclenché. c'est un peu une sorte de revanche personnelle aussi, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à chausser de manière solitaire, en tout cas mes baskets, pour exorciser un sentiment qui était négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pensais pas que ça allait, en tout cas, créer cette immense communauté de femmes et d'hommes qui se battent pour le même combat que moi. Donc, c'est vrai que c'est chouette. Et puis, il y a un chiffre aussi, là, on a fait nos dernières analyses, qui pour moi est juste le plus beau des chiffres. Sur le running, il y a 20% des femmes qui nous ont dit cette remise à la pratique grâce à nos sessions.
Ah,
et
oui.
Ça, je me dis, c'est trop beau, quoi. Des femmes qui avaient laissé abandonner leur basket parce qu'elles avaient peur et que parce qu'on les a accompagnées, on osait rechausser et refouler ces rues où elles n'osaient plus aller. Je me dis, on a gagné.
Une femme sur 5, c'est énorme.
Ouais,
ce chiffre.
Ouais.
Johan, tu vois, tu disais tout à l'heure, ça concerne tous les sports et tout. Je trouve malgré tout que la course à pied, pour reprendre confiance en soi quand on avait été victime d'un traumatisme, c'est un sport idéal, tu vois, parce que la course à pied, ouais, ça se pratique seul ou en groupe, mais c'est toi face à toi-même. C'est-à-dire que
un sport simple. Ouais.
Voilà,
T'as
besoin de personne. Tu construis un peu ton entraînement et tes efforts sont récompensés. Et je trouve que pour se reconstruire après un traumatisme, c'est quand même le sport idéal, Johan.
Ouais, c'est vrai que la course à pied, pour ça, elle est chouette parce que t'es seul face à toi-même et face à tes problèmes, et souvent retrouver la confiance en soi va te permettre d'aller mieux et de courir plus vite, et plus tu vas courir, enfin tu vas progresser dans ta pratique, et plus tu vas retrouver confiance en toi en plus. Et donc ouais, c'est important de se servir de ça pour avancer, mais la course à pied, c'est vrai que c'est presque le sport parfait, parce que on l'a souvent dit ici, hein, c'est le sport où t'as l'impression que tu oublies tes problèmes, tu les laisses à la maison, t'enfiles tes baskets et tu penses plus à rien, et tu te fais plaisir tout seul avec pas besoin de max d'équipement, c'est simple à mettre en place, et puis derrière tu as une espèce de fierté personnelle quand tu as fini ton run et tu dégages quelque chose, tu le vois dans les yeux des coureurs qui terminent ne serait-ce qu'une séance ou un footing, il y a de la satisfaction,
ouais,
et cette satisfaction, elle te redonne confiance en toi et elle te permet de te reconstruire. Ouais.
Mathilde, ça devrait être prescrit par les médecins, la course à pied, en fait.
Totalement.
Ça, c'est vrai.
Et par les psychologues, bien sûr. Là, c'est un formidable vecteur pour reprendre confiance en soi. C'est ce qui t'est arrivé, d'ailleurs, Mathilde.
Oui, oui, moi, ça a été ma meilleure des thérapies. Et ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi.
Yodu, tu voulais rajouter un truc encore ?
Tu le vois avec pas mal d'athlètes qui t'expliquent que c'était des fumeurs dépendants, des mecs qui faisaient des soirées, qui avaient basculé un peu dans la drogue et tout, et du jour au lendemain, ils se reprennent en main, et c'est souvent dans la course à pied où ils arrivent, et puis du coup, après, ça devient des addicts de course, mais bon, c'est quand même mieux pour la santé d'être addict à la course à pied qu'à n'importe quelle drogue ou n'importe quelle autre chose, quoi.
Ça, c'est sûr. Je rappelle deux chiffres importants vous permettent de prendre conscience pourquoi il faut parler de ces sujets. Une femme sur 3 dans sa vie est victime de violence ou de harcèlement. Ça paraît fou. Donc 30% des femmes. Regardez autour de vous toutes les femmes que vous avez et gardez bien ce chiffre en tête. Et puis, autre chiffre terrifiant. Toutes les 7 minutes, une femme est victime de viol ou de tentative de viol. Et une femme sur 3 est donc victime de violence dans le monde. Ce sont des chiffres qui marquent, qui parlent. Et c'est la meilleure façon de populariser tout ça, de prendre conscience que toutes les 7 minutes dans le monde, Mathilde, il y a une femme qui est agressée.
Oui, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut être en tout cas nombreux à se mobiliser pour stopper ces violences.
Est-ce que tu as une ambition de faire grossir le projet, de te développer même à l'étranger, de rejoindre des structures qui existent dans d'autres pays ? Est-ce que c'est une idée qui est dans ta tête ?
On a l'ambition en tout cas de répondre aux besoins déjà sur le territoire en France. Parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de demandes, soit de femmes qui nous demandent « Mais pourquoi vous n'êtes pas à Nantes ? Nous, on a vraiment besoin que vous puissiez monter des sessions.
Ouais. »
Qu'on puisse faire ce changement d'échelle à court terme, c'est ce qu'on souhaite.
Dans un instant, on va parler de ta course que tu mets en place donc, tous les ans. On parlera également, on fera le résumé de toutes les actions concrètes qui sont mises en place par Sine Qua Non. Juste auparavant, c'est important. Est-ce qu'on peut résumer certaines précautions à prendre lorsqu'on est une femme et qu'on court seule, Mathilde? Est-ce qu'il y a quand même des précautions à prendre? Est-ce qu'il y a des choses à penser? C'est ton combat de faire en sorte qu'il n'y en ait plus, mais là, la réalité est autre pour l'instant. Est-ce que tu as des conseils à donner à toutes celles qui veulent poursuivre la course à pied malgré les risques et les dangers qui existent dans la nature?
Oui, alors déjà, d'oser surtout pas d'abandonner la pratique, donc de trouver en tout cas les points qui font qu'on est en insécurité et pouvoir à court terme, comme vous le disiez, y répondre. Donc moi, je préviens en tout cas mon compagnon quand je pars faire du sport. J'ai toujours mon téléphone sur moi, ouais. Si jamais, pour pouvoir prévenir. Il y a ces applications, comme vous le disiez, qui sont aussi une première, en tout cas un premier moyen de pouvoir poursuivre sa pratique. En tout cas, je pense que c'est important de continuer à être présent dans cet espace public.
Est-ce qu'on peut résumer rapidement toutes les actions que vous mettez en place? Il y a toujours ces footings, ces entraînements gratuits. D'ailleurs, on peut y aller, s'inscrire et y aller gratuitement. Il y a donc la course qui existe, on va en parler, la course que tu mets en place à chaque fois au mois de mars, près de la Journée internationale du droit des femmes. Est-ce que tu peux nous résumer comme ça vos actions, Mathilde, s'il te plaît?
Oui, on est aussi sur les espaces de street workout, où ouais. Là, on propose des sessions de boxe. Et cette année, on va se lancer aussi, donc, dans la même façon, l'accompagnement dans des équipements sportifs où il faut intervenir sur la pratique du skate avec les skateparks.
Excellent, ça c'est bon. Il y a un skatepark à Bergerac ou pas?
Non.
C'est bon ça. Est-ce qu'il y a des personnalités du monde du sport qui vous soutiennent?
Oui, Laurie Delostal qui a un grand soutien.
L'ami.
Ouais, on a Lucille Woodward, notre marraine, qui est une coach sportive. On a Candice Prévost aussi, qui est une joueuse de football, qui nous soutient, notamment sur la partie foot. Et Sarah Ouramoun pour la boxe et les espaces de street workout.
Et est-ce que tu peux nous rappeler la date de ta course, donc la course qui est organisée par Sine Qua Non, et puis les formats aussi? On est donc sur le parcours, hein, une course de 6 ou 10 km entre Paris et la Seine-Saint-Denis. On peut également le faire en challenge connecté. Est-ce que tu peux nous rappeler la date, la façon de s'inscrire, etc.?
Donc la course est le 9 mars, le départ a lieu à la tombée de la nuit, hein. Donc le premier départ est à 18h, pour s'inscrire il faut aller sur notre site, donc sinequanon.asso.fr, et là on peut prendre son dossard, soit sur la partie physique, soit effectivement en distanciel, puisqu'avec notre partenaire Strava, on propose une solution pour pouvoir partager nos foulées un peu partout où l'on est.
Et ben voilà, c'est très clair. Écoute, il est temps de passer à la séance. Maître Yodu va te donner des conseils, Mathilde.
RMC,
la séance.
Même si ça ne te concerne plus, parce que désormais tu cours depuis longtemps. Mais tu l'as été, et tu as forcément commis des erreurs, parce que quand on démarre sans trop se renseigner, et ben ça peut coûter cher. On va aider ceux qui veulent se lancer. D'ailleurs, Johan, là on parle pas aux coureurs affirmés et réguliers, on parle plutôt à ceux qui rêvent de se lancer. Déjà, impondérable, l'importance du choix du matériel. Ça, c'est une...
Ah oui.
Comme on dit, une condition sine qua non.
On est sur la même longueur d'onde, parce que je l'avais marqué en premier. Tu vois, c'est vraiment le truc que je me suis dit, il ne faut pas que ça passe à travers ça. Parce que voilà, l'erreur du débutant, c'est de se blesser. Hein. C'est le risque, c'est la blessure. Et bien évidemment, souvent, les débutants, moi, je les vois... Ils courent avec des chaussures qui sont pas du tout adaptées à la pratique de la course à pied. Le nombre de mecs que j'ai vu courir avec des Converse, je me dis, je sais même pas comment dans les années 80 on a pu se dire que ces chaussures c'était des chaussures de course. Tu vois, je sais même pas comment c'est possible. Mais t'en vois beaucoup, hein, des gens comme ça qui courent avec des Converse. Donc l'idée c'est vraiment de courir avec. Enfin, la chaussure c'est quand même le point primordial quand on débute une pratique, c'est d'aller voir un spécialiste. Un vrai spécialiste, de pas forcément les acheter direct sur internet, d'aller dans un magasin de running et d'aller se faire conseiller, à la limite presque même faire des analyses de foulée. Tu vois, il y a des gens qui peuvent te regarder courir sur tapis dans certains magasins et ainsi vont te proposer une chaussure qui sera adaptée à ta pratique et en fonction de ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux une chaussure de trail pour faire du chemin? Est-ce que tu veux une chaussure de route si tu fais 100% route? C'est hyper important de choisir un bon équipement. Ça part de la chaussure, mais ça va aussi sur le textile, mais c'est quand même la base pour prévenir la blessure, parce que c'est vraiment le risque numéro un, c'est ça. c'est le bah risque oui. de blessure. Et après, le classique qu'on voit régulièrement, c'est l'augmentation, enfin, c'est la vitesse de course. C'est-à-dire que les gens vont courir trop vite. Ils vont tout le temps à la même vitesse. Ils ne font pas de séance de fractionné. Ils ne font pas de, ils font tout en endurance. Pas de séance de vitesse. Pas de séance longue. Ça se ressemble parce que ils se disent, bon, bah, la course, c'est de la course. C'est ultra simple. Je mets mes baskets, je pars. Et c'est l'idée reçue. Aujourd'hui, je fais 5. Demain, je ferai 5,5. Demain, j'essaierai d'aller plus vite de 3 minutes. Et puis, ils y vont comme ça sans trop réfléchir, alors que justement, ça se construit. Il y a des plans d'entraînement qui existent de façon à se mettre en route. Mais voilà, c'est souvent les gens qui courent souvent à la même vitesse tout le temps qui ont des risques de blessures et de ne pas progresser en course à pied. Ouais.
Courir, ça s'apprend. Tu as raison de le rappeler. On le dit systématiquement, mais c'est un conseil qui est primordial. Mathilde, t'as fait l'erreur des chaussures, des baskets au début. T'es allé avec la paire de baskets que t'avais au fond de l'armoire ou t'avais investi dès le début quand tu t'es dit « je vais me mettre à la course à pied ».
Bah, comme j'étais à Montréal et que j'étais un peu dans un environnement que je ne connaissais pas et que le sol était verglacé, j'ai dû acheter des crampons.
Voilà.
Donc, mais ce que vous dites, oui, moi je l'ai éprouvé justement sur ma prépa un peu du marathon qui n'a pas fonctionné. Où je me suis mal préparée, où j'ai mal jugé aussi cette dose d'entraînement. Et je pense que c'est en tout cas cet apprentissage par l'erreur en se blessant où j'en ai beaucoup appris.
Non, mais déjà, est-ce que le cheminement est différent entre les profils Yodu? Parce qu'il y a des personnes qui viennent d'autres sports, d'autres disciplines,
oui.
Et puis il y a aussi celles qui partent de zéro. C'est pas forcément la même façon de travailler et de se lancer aussi.
Ouais, les erreurs seront différentes. Tu vois, quelqu'un qui a jamais fait de sport, lui, sa problématique numéro un, c'est qu'il va mal s'échauffer. Tu vois, il va partir à froid comme ça en faisant des à fond parce que il va pas avoir la notion d'échauffement comme on peut l'avoir quand tu viens du foot ou du tennis ou autre où on t'a appris que le premier point c'est de s'échauffer, de bien être équipé, de faire un petit jog tranquille, de faire un peu de gamme, des choses comme ça. Et voilà, du coup, t'as ce cadre-là qui n'existe pas pour la personne qui commence la course. Et puis après, le débutant qui n'a jamais fait de sport non plus, lui, ce qu'il aime, c'est le footing. Le footing, oui, en endurance fondamentale, où il peut parler, il va courir. Mais du coup, il déteste le fractionné, il déteste le travail de renforcement, il déteste le travail de technique course et tout. Alors que quand tu viens d'un autre sport, t'as conscience que le fractionné c'est important, le renforcement c'est important, l'hydratation c'est important, l'hygiène de vie c'est important. Et alors que le débutant, la personne qui vraiment a fait peu de sport dans sa vie et se lance dans la course, va rester dans son petit dans sa petite zone de confort en faisant ses petits footings, les choses comme ça, qui peuvent sur le long terme, comme je le disais tout à l'heure, soit amener à la blessure, soit ne pas lui permettre de progresser comme il pourrait le faire. Ouais.
C'est le plus dur, mais il faut apprendre à s'écouter, donc gérer ses sensations, savoir sentir si on va un peu vite ou non. Garder cet esprit de progressivité, ne pas passer de 0 à 50 ou 60 km par semaine, parce que c'est la blessure.
Le problème du débutant, c'est que comme il va progresser très vite, d'un seul coup, il va au bout de 3 semaines, il est piqué,
c'est vrai.
Il se prend au jeu, et là, d'un seul coup, il devient addict à la course, et là, d'un seul coup, c'est fini. Il s'inscrit sur un 100 km le mois suivant, il passe à 200 km par semaine, et là, c'est la blessure.
Très bonne remarque, parce que moi, je l'ai vécu aussi personnellement. Moi, je venais du monde du foot, et il y a eu ce fameux défi personnel et familial de se dire on va faire un marathon. Donc tout bêtement, j'ai acheté une revue spécialisée de running et je me suis dit tiens, je vais me fixer tel objectif, 3h30 au marathon. Donc je vais suivre bêtement tous les entraînements qui sont marqués avec les allures, alors que finalement j'avais jamais vraiment pratiqué la course à pied. Et ce qui a été finalement assez difficile, c'est une erreur à ne pas commettre. Et c'est pour ça que c'est dur de partir sur des plans écrits et établis quand on n'a jamais fait de course à pied, parce que tout ce système comme ça de plans, etc., s'adresse à des coureurs réguliers
qui ont l'habitude.
Qui savent ce que c'est, quoi, déjà.
C'est ça qui est difficile. Enfin, c'est difficile et c'est beau dans la course à pied aussi pour les entraîneurs, c'est d'accompagner les gens dans leur pratique. Et t'as 1000 trucs à faire. Et c'est vrai que le débutant, pour le coup, lui, il faut juste lui faire prendre conscience de son corps, de son body, comment il se sent, qu'il puisse ressentir les différentes allures qu'on veut le faire travailler, la progressivité, les choses comme ça. Et presque à la fin, c'est des gens qu'il faut freiner parce qu'ils ont tendance à toujours vouloir aller trop vite, parce qu'ils se disent plus je vais vite, plus je vais progresser, ouais. Alors que pas du tout, je te l'explique souvent, c'est des cycles de travail, derrière il y a de la régénération pour progresser, mais il faut faire du travail et de la régénération pour progresser, ouais. Il faut aussi apprendre à courir doucement.
Une autre erreur qui est souvent commise, c'est qu'on se dit je vais courir pour perdre un peu de poids, pour le fameux summer body. Toi t'es déjà là, toi t'es déjà affûté, toi y a pas de souci, Yodu. Non mais il y a l'erreur de se dire allez je me mets un peu à la course et puis je vais tout faire à jeun, comme ça je perdrai plus vite du poids. Mais quand on n'est pas habitué déjà à courir, c'est un danger. Mais quand on le fait systématiquement à jeun, là aussi il y a des vrais risques, hein. Risque de blessure, risque d'hypoglycémie aussi. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. La course à jeun, ça s'appréhende, Yodu.
Ça s'appréhende, ouais. La course à jeun, ouais, c'est quelque chose de assez particulier. Il faut faire juste de l'endurance fondamentale très facile. Il ne faut pas essayer de fractionner ou les choses comme ça. Mais c'est vrai que la course à pied, en plus, elle a ce problème, c'est que tu te dis, derrière la course à pied, tu te dis, bon, ben, j'ai bien bossé, donc je me fais plaisir et je m'enquille, tu vois, quand je m'enquille un gros plat de machin, un McDo, un truc. Sauf que la balance calorique, si on veut perdre du poids, il faut qu'il y ait plus de dépenses caloriques que ce qu'on va en ingurgiter derrière. Donc c'est vrai que si tu dois te plâtrer le petit-déj, te faire un petit déj de l'espace juste après un petit footing, le footing, il a servi à rien, en vrai.
Exactement. Juste pour terminer, pour conclure cette séance d'entraînement, est-ce que tu peux nous apporter un peu de concret, quelques séances d'entraînement que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance dans la course à pied?
Bah, c'est de début. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui se lance, c'est d'y aller de façon progressive, hein. On parle souvent d'une augmentation de 10% de volume par semaine. Donc, voilà, si vous aviez l'habitude de courir, si vous y êtes 2 à 3 fois par semaine et que vous faites un volume de 20, bah, vous montez progressivement d'un entraînement à 22-25 km la semaine suivante. Puis après, vous allez essayer d'aller chercher les 30. Mais vraiment, il faut que ça soit linéaire, progressif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait des périodes de repos, enfin, où on va courir moins, où on va plutôt faire des étirements, faire du renforcement, parce que ça, c'est vraiment la partie négligée par rapport à la blessure, hein, ça, c'est des choses importantes. Essayer de fractionner un minimum, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que le débutant a tendance à vouloir, en se disant qu'il va juste courir et ça va suffire, mais s'il veut progresser, il va falloir qu'il fasse du fractionné. Mais
D'intégrer du fractionné, ouais. Même quand on débute.
Intégrer du fractionné, ouais. Même quand on débute. Alors voilà, il faut vraiment s'écouter, il faut le faire à sa main, il faut vraiment être en aisance respiratoire, il faut pas non plus essayer de faire des sprints comme un fou. Faut que ça soit intelligent, mais voilà, j'ai envie de dire, il faut vraiment que ça soit progressif, c'est ne pas être trop ambitieux. La progression, c'est juste vous faites plaisir dans la pratique de la course, n'allez pas trop vite. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment avoir des zones de travail avec de l'endurance, de la vitesse, de la sortie longue, toutes ces choses qu'on apprend un petit peu plus tard, mais qui peuvent être des bons conseils pour les débutants. Mais le vrai conseil numéro un, c'est quand même l'équipement, parce que il y a trop de gens qui démarrent et qui veulent pas. Enfin, une paire de chaussures, c'est vrai que c'est relativement cher, c'est entre 150 et 200-220 euros. Mais par contre, ça peut vous éviter de passer trois mois chez le kiné, et exactement. Pour le coup. L'investissement est plutôt rentable.
Voilà, et même s'il fait froid, on évite de courir en moon boots, n'est-ce pas?
Ouais. C'est ça.
Mathilde, il a été bon, le coach?
Ah, parfait.
Bon, eh ben oui, c'est la plus-value des RMC Running. Allez,
elle s'est reconnue dans les erreurs, peut-être.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Passons tout de suite au bon plan d'ossard.
RMC, le bon plan d'ossard.
Le bon plan d'ossard est magnifique, c'est une des plus belles courses de l'année. Le plus grand semi-marathon de France, le semi de Paris, ça aura lieu le 3 mars prochain, donc dans les rues de Paris. Vous allez partir du pont de Sully, vous allez filer vers le bois de Vincennes, vous passerez devant le château de Vincennes, vous rejoindrez le quai de Bercy avant de terminer place de la Bastille. Vraiment un magnifique parcours, un parcours qui est idéal aussi pour aller chercher un chrono, ça reste intéressant. Il est sympa ce semi de Paris, Yodu, hein. C'est vrai qu'il y a certaines années où c'était plus dur d'aller chercher un chrono, mais là, les dernières éditions ont été remarquables, hein.
Il y a toujours des beaux chronos, ouais. Moi je ne l'ai pas fait depuis 2018 ou 2019, il me semble, mais c'est vraiment la fête du running. Et puis surtout, il est bien placé parce qu'il est 5 semaines avant le marathon de Paris, donc moi, pour tous les mecs qui font le marathon de Paris, je ne serais que trop le conseiller de le faire. On peut le faire à fond, justement l'avantage de d'être à 5 semaines, c'est qu'on peut le courir vite. Vous reconnaissez une partie du parcours un peu en sens inverse du marathon pour ceux qui connaissent pas le parcours de Paris.
Ouais.
Donc et puis c'est la fête du c'est le début du printemps, tu vois, il fait pas encore toujours très beau, mais tu sens que tu sors de l'hiver. C'est la fête de la course à pied, donc c'est un chouette semi, ouais.
Ouais, et 40 000 personnes attendues au départ, dont Mathilde Castres. J'espère que tu es en pleine prépa et que tout va bien, Mathilde, d'ailleurs.
Ouais, je suis en pleine prépa et heureuse de pouvoir prendre ce départ.
Ah voilà, tu souffres du froid, mais tu t'accroches.
C'est ça. Cas.
Tu l'as déjà fait, le semi de Paris, Mathilde?
Oui, bah, ça a été mon premier gros challenge où, comme vous le disiez, moi, j'ai découvert ce qu'était vraiment des plans d'entraînement, puisque avant, je courais toujours à la même allure sans faire attention.
Et voilà.
Et là, j'ai plus le choix et je me suis mise à bouquiner sur les bonnes façons de se préparer.
Bon, parfait. Le 3 mars 2024, on met 4 dossards en jeu, mais ces dossards sont un peu particuliers parce qu'on en offre 3 à des femmes. Voilà, vu qu'on a mis en avant les femmes dans cet épisode. 3 dossards à gagner pour des femmes, 1 dossard pour un homme, 4 dossards en jeu avec un test d'écoute. Vous allez sur nos réseaux sociaux, hein, sur Strava, sur Instagram, Strava via le club RMC Running. La question que je vous pose, vous me donnez la date de la course organisée par l'asso Sine Qua Non, organisée par Mathilde Castres. Vous donnez la date, comme ça vous êtes éligible au tirage au sort. Et voilà, vous aurez des chances de participer au Semi de Paris grâce à RMC, une course dont on parlera. On sera peut-être même sur la ligne d'arrivée pour un podcast spécial, pour tout vous dire. Mathilde, tu es la bienvenue d'ailleurs si tu parviens à réaliser ton objectif, et si on est dans les parages, tu seras la bienvenue à notre micro. Ok.
Ah bah, parfait. Rendez-vous pris.
Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathilde Castres. Bravo pour ton combat. Continue, ne lâche rien, c'est important. Et on espère que les choses vont aller en s'arrangeant. On a toujours cette tradition pour terminer. La musique que tu écoutes quand tu cours, ça va nous réchauffer un peu en cette période. C'est Rachid Tahar. Rock El Casbah, c'est bon ça? Hey, Yodio, elle a jamais eu ça, hein?
Non, ouais. C'est la première. C'est chouette, ouais.
Ah ouais. Mathilde, tu te mets ça quand tu fais une séance difficile?
Ah oui, ça me donne la pêche.
Bon, merci Mathilde d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi, Maître Yodu. Et puis
merci
toujours ce conseil pour terminer RMC Running. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.